Le FMI, le Fonds monétaire international, sort encore un document en ce mois-là qui va parler une fois encore de croissance pour l'Afrique. Comment ces rapports sont-ils établis?
Écoutez, si vous parlez de la perspective économique mondiale, qui est un rapport qui sort chaque année et qui est remis à jour entre octobre et au mois de mars pour ajuster un peu les données. Alors comment ça sort? C'est pas très compliqué. C'est d'abord des gens qui s'occupent essentiellement, pour ne pas dire presque exclusivement, de ce qu'on appelle nous la macroéconomie, c'est-à-dire les grands comptes économiques de l'État. Comment fonctionne en gros l'État? Quelles sont les grandes entrées, les grandes recettes? Et comment tout ça est géré? C'est pour ça qu'on parle de gouvernance, de bonne ou mauvaise gouvernance. Ce qui veut dire que vous avez souvent une impasse sur les aspects microéconomiques, donc qui touchent plus l'entrepreneur, l'entreprise, etc., au niveau plus détaillé. Et surtout, carrément, vous avez une absence du secteur informel. Et quand vous savez que l'Afrique, 40%, pour prendre le cas du Sénégal, tourne sur l'informel et crée de l'emploi d'ailleurs dans ce secteur, et que le reste c'est plutôt des PME-PMI et donc la microéconomie, vous voyez bien que les critères qui sont utilisés pour sortir des rapports plutôt macroéconomiques passent en fait la vérité ou la réalité africaine un peu de côté. Ça c'est pour l'aspect global. Maintenant sur le plan un peu plus technique, ils utilisent essentiellement, il y a plusieurs données, mais essentiellement ce qu'on appelle nous le PIB, le produit intérieur brut, qui est un des nombreux indicateurs économiques et qui est complètement, je dis bien complètement imparfait. Complètement imparfait. Tellement imparfait que beaucoup de nouveaux économistes, notamment des prix Nobel, sont en train de penser à d'autres formes beaucoup plus élargies. Le programme des Nations Unies pour le développement a parlé déjà de l'indice du développement humain, dont l'aspect humain est pris en compte, l'aspect social est pris en compte. Et beaucoup plus loin aujourd'hui, on va jusqu'à penser à ce qu'on pourrait appeler le bonheur national brut. C'est-à-dire comment peut-on analyser ça? C'est pas la théorie. Il y a un rapport qui est sorti il n'y a même pas quelques mois, dont j'ai fait même un petit résumé il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, dans ce rapport, beaucoup de pays africains sont bons derniers, dont le Togo d'ailleurs, et beaucoup de pays qui se croyaient en avance ne sont plus du tout bien classés. Donc, vous avez posé une question de fond. Les critères qui sont choisis pour donner une évaluation ou une photographie du monde à un moment donné sont essentiellement économiques. Et dans l'économie, uniquement la partie macroéconomique. Et il faut quand même donner les chiffres à vos auditeurs. La croissance mondiale, en 2012, en gros, d'après ce rapport du Fonds monétaire international, serait de 3,2% en moyenne. Mais ce qui affole tout le monde aujourd'hui, c'est que ce même FMI dit que l'année prochaine, 2013, cette année en fait, ça va baisser. Donc nous ne sommes pas du tout en croissance de manière globale au niveau mondial. Alors, ils essaient de dire qu'en 2014, ça irait un tout petit peu mieux. Et pour venir sur l'Afrique subsaharienne, bon, nous sommes aux anges, puisque nous étions à 4,8, 4,9 en 2012, et nous sommes passés à 5% et quelques, et quasiment 6 en 2014. Donc, l'Afrique est pratiquement le double et demi même de la moyenne mondiale. Et ce qui va m'amener à votre certainement prochaine question, comment se fait-il qu'on a une croissance économique aussi importante, 5, 6%, 2013-2014, et qu'en face, les populations, l'emploi, les inégalités
exactement.
Ne font
rien. Comment se fait-il qu'on parle tout le temps de croissance, mais au quotidien, et disons, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est la misère?
Vous avez raison. La croissance, elle est là depuis plus de 10, 12 ou 13 ans à peu près. Elle est assez stable, et autour de 5% en moyenne. Il faut le reconnaître sur l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, il y a des disparités au sein des pays. Mais de manière générale, ça reste une croissance largement au-dessus de la moyenne mondiale. La question que vous posez, comment se fait-il que cette croissance, qui existe donc, n'arrive pas à se traduire en activité productive, ce que j'appelle moi les capacités productives, d'où vous sortez quoi? Les autorités, l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, ceux qui vont créer de la richesse, et à côté de ça, qui vont créer des emplois. De ces emplois, des salaires qui touchent et distribués de manière à peu près décente, les populations, et du coup, une amélioration. Si vous comparez la Chine et vous comparez l'Afrique subsaharienne, c'est à peu près la même croissance. La Chine est même largement au-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que la Chine, de par sa politique, depuis Mao, leur grand dirigeant, a imposé que quand la croissance a lieu, elle doit se transmettre au niveau du plus petit. Donc on a sorti, je ne sais plus combien de millions de gens qui faisaient du riz, donc des pauvres paysans qui n'avaient pratiquement pas de salaire, en des gens qui aujourd'hui vivent relativement bien. Et c'est très simple à expliquer. Regardez les photos de la Chine il y a 15 ans. En gros, vous allez voir des vélos partout dans ce territoire. Regardez la Chine d'aujourd'hui. C'est les voitures, pour ne pas dire les meilleures voitures, pour ne pas dire les meilleurs yachts, et pour ne pas dire le plus grand nombre de milliardaires dans le monde là-bas. Donc il y a un système de redistribution de la macroéconomie vers la microéconomie qui se fait de manière régulée, donc par l'État, qui se fait de manière éthique par les entrepreneurs eux-mêmes qui ne volent quand même pas trop. Et donc je repose le problème de fond de l'Afrique. Il y a un problème entre cette croissance dont vous parlez, 5-6% en 2013-2014, et sa transmission ou sa diffusion au niveau des populations. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une classe qui, en fait, s'accapare une bonne partie de cela. Cette classe n'est pas que nationale, n'est pas qu'africaine. Elle est aussi influencée, pour ne pas dire sous contrôle souvent, de l'extérieur. Et les deux faisant partenariat, ben écoutez, il y a une bonne partie qui échappe finalement à nos populations en termes de redistribution. Et les choses les plus basiques, l'eau, l'électricité, l'accès à la liberté pour ce qui est des journalismes, et un certain nombre de choses font comme ça, de manière aléatoire, ne fonctionnent pas. C'est qu'il est absolument inadmissible. Il y a aussi des choix erronés. Hein, l'Afrique aurait pu se développer avec des matériaux de construction alternatifs, par exemple la brique et la terre cuite, qui sont des matériaux pratiquement gratuits en Afrique. Non, nous avons choisi des ciments qui sont plus difficiles, qui sont plus compliqués, qui demandent des investissements beaucoup plus importants. En termes d'énergie, nous avons le solaire. Nous sommes tous partis en utilisant le pétrole ou en utilisant d'autres formes qui ne sont pas aussi énergétiques, intéressantes ou alternatives. Donc il y a des choix stratégiques qui se font par justement ceux qui dirigent. Et là, vous posez le problème de fond. Quels sont ces choix, ces stratégies choisies par cette Afrique alors qu'elle a une croissance de 5-6%? Et si ces choix ne sont pas d'abord aujourd'hui déjà en train de montrer leurs limites, puisque tout le monde parle d'émergence, mais je ne la vois pas. J'ai même fait plusieurs papiers dessus pour expliquer que l'émergence, ça ne se décrète pas.
Oui, comment faire changer les choses concrètement?
Alors, changer, il y a deux manières de le changer. Il y a la manière pacifique, c'est-à-dire que, et transparente, c'est-à-dire qu'on accepte des élections démocratiques dans la plupart des pays, auquel cas les populations ben, choisiront leur destin. S'ils font des erreurs, ben, ils les corrigeront. C'est ça le principe de la démocratie. Et il y a la méthode forte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment, par le fait qu'ils contrôlent l'armée, qu'ils contrôlent un certain nombre de pouvoirs, notamment de richesses, qui vont vous imposer une stratégie dans laquelle ils imposent aussi la redistribution. Et à partir de là, des ressources du pays, du continent africain, sont soit accaparées par ces gens-là, soit retransmises vers l'extérieur. C'est même une nouvelle forme de recolonisation qui est en train de se mettre en place, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant d'avoir ce que j'appelle des intérêts communs, des intérêts partagés, parce que plutôt que d'être l'ancienne colonie, le blanc qu'on voit physiquement en Afrique, ça a disparu depuis les années 60, quoique, mais la réalité c'est qu'on prend des agents qu'on transforme, qui font même mieux le boulot en étant encore plus zélés. Et c'est ça qui est dangereux pour cette Afrique aujourd'hui, parce que dès qu'ils ont cet argent, dès qu'ils le distribuent, mais de manière aléatoire. Pendant les périodes électorales, comme ça, ils achètent les consciences. Pendant les périodes électorales, ils modifient les bulletins de vote, et bien c'est pas ce que le peuple a choisi qui est au pouvoir, etc. Alors, comment? On ne peut pas rester sur une note négative. Ben, il faut aussi lutter. C'est-à-dire qu'il faut que les intellectuels africains reprennent leur rôle. Et sincèrement, là-dessus, il y a un échec total, de manière globale, de la diaspora, comme au niveau national, de ces intellectuels africains qui choisissent souvent une voie de la facilité et soit jouent le jeu du système, soit carrément sont partis à l'étranger. Je m'inclus dedans.
Vu que ces rapports se basent sur des critères macroéconomiques pour des pays où l'informel est très développé, ou enfin quand même une bonne partie, est-ce que finalement ces rapports sont crédibles?
Alors ça va vous poser une question de fond. La crédibilité du rapport l'est par rapport aux critères que ce rapport a choisi. Donc je ne peux pas dire que le Fonds monétaire international, l'OCDE, ou toutes ces institutions ou l'ONU qui font des rapports ne sont pas crédibles. Les rapports sont crédibles par rapport aux critères que eux-mêmes se sont fixés. Et ces critères ont pour objectif de mettre en valeur la capacité d'un État à rembourser les prêts qu'ils ont pris au niveau international. D'ailleurs, vous constaterez souvent, dans la plupart de ces rapports, on met de côté l'industrialisation et donc par définition l'emploi. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est une stabilité pour que vous puissiez repayer la dette. Et dès lors que vous payez la dette, alors oui, tout le reste, on autorise au régime qui permet que ce genre de choses se fassent. Alors la crédibilité, finalement, c'est que nous, les Africains, les intellectuels africains, les instituts, les universités devraient se prendre en charge et élaborer eux-mêmes leurs critères.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, M. Amaïso. Finalement, ces rapports répondent à leurs préoccupations, aux préoccupations de ces banques-là.
Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Ne croyez même pas que c'est quelque chose de compliqué à faire, on ne va pas refaire la roue. Les critères qui permettent d'analyser l'Afrique d'un point de vue des Africains, ils existent. Vous savez, il y a des critères qui ont été sortis sur la gouvernance de Mo Ibrahim, il y a des critères qui existent qu'on peut trouver au niveau des programmes des Nations Unies pour le développement, il y a des nouveaux critères qui existent maintenant au niveau des rapports sur le bonheur des pays. Donc ce n'est pas les critères qui manquent. Ce qui manque, c'est cette volonté entre les intellectuels africains, quand je dis intellectuels au sens noble du terme, des gens, toute personne confondue, privée ou publique, qui s'intéresse à s'analyser lui-même. Vous n'allez pas dire au tigre d'aller vous faire l'histoire des brebis. Le tigre, il mange les brebis. Sa tigritude, c'est la sienne, c'est pas la nôtre.